Depuis que la notion d'intérêt général a remplacé celle de bien commun qui lui préexistait, c'est le fondement de l'action publique. C'est en son nom que sont menées les politiques publiques et c'est ce qui fonde la légitimité de l'action des pouvoirs publics dans leurs prérogatives de puissance publique, et tout ça évidemment sous le contrôle du juge. Pourtant, plusieurs évolutions sont à l'œuvre qui interrogent cette notion centrale du paradigme des sociétés démocratiques. La notion est d'abord affaiblie dans son expression publique. Enserrée entre l'épanouissement de la défense des droits individuels, très valorisée dans notre psyché collective, et l'émergence d'impératifs supérieurs qui paraissent dépassés par leur importance et leur priorité, l'intérêt général immédiat de notre société humaine pour imposer un intérêt plus large et plus intemporel, je pense au défi climatique, l'intérêt général de l'action publique immédiate n'est plus aussi légitime et incontesté. Et de fait, les décideurs publics sont moins prompts que par le passé à justifier leur action et leurs décisions par la mise en exergue de ce fondement de leurs priorités. Pierre Delvolvé, professeur émérite de l'Université de Paris II et membre de l'Académie des sciences morales et politiques, nous enseignera les évolutions et les confrontations que la notion d'intérêt général a aujourd'hui avec d'autres notions. Mais l'intérêt général est aussi devenu pluriel. C'était dans son acception traditionnelle l'apanage de l'État, le vice-président le disait tout à l'heure, et celui-ci en garantissait la prééminence à l'égard de tous les autres acteurs, collectivités locales et acteurs privés. On peut avoir le sentiment que l'intérêt général est aujourd'hui poursuivi par d'autres institutions ou d'autres organismes. Si évidemment l'État continue de fonder son action sur l'intérêt général, et Frédéric Vaux, préfet et directeur général de la police nationale, nous dira combien cette notion est au fondement de l'action publique, y compris dans son acception la plus régalienne, celle de la police, et les difficultés qu'il a parfois le sentiment à faire prévaloir l'intérêt général sur d'autres notions que je viens d'évoquer. Muriel Fabre, la secrétaire générale de l'Association des maires de France, nous dira peut-être que l'intérêt général n'est pas que l'apanage de l'État et que soit on peut considérer qu'il y a un intérêt général local, soit que l'intérêt général est aussi porté par les collectivités locales, ce qui est une autre façon de le dire, et d'articuler les deux notions. Enfin, Marie-Amandine Stévenin nous dira peut-être que l'intérêt général peut être porté par d'autres acteurs que les pouvoirs publics, des associations, des fondations, des acteurs privés, qui font prévaloir un intérêt général qui est l'intérêt général d'une partie des acteurs. Et là aussi, l'articulation avec l'intérêt général national traditionnel, celui que nous utilisons le plus fréquemment, doit être interrogée. Nous allons commencer, professeur, par votre intervention, si vous le voulez bien.
Merci, monsieur le président. Vous avez dit que j'allais enseigner quelque chose, mais pas du tout. Je ne suis pas devant un public d'étudiants. Et je vais simplement essayer de participer à la réflexion de tous sur ce sujet de l'intérêt général et l'action publique. Tout a été dit sur la consistance, l'appréciation, l'évolution de l'intérêt général. Mais il y a des expressions qui sont utilisées et qui ont un rapport évident avec l'intérêt général mais qui ne sont pas exactement les mêmes et sont peut-être plus importantes. Et c'est là que je vais rappeler ce que vous souhaitiez. Les intérêts fondamentaux de la nation. C'est une formule qu'on trouve dans des textes et qu'on trouve dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Dans des textes, le sixième alinéa du préambule de la Charte de l'environnement dispose, considère, que la défense de l'environnement doit être assurée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la nation. Et le Conseil constitutionnel rappelle que répond à des exigences constitutionnelles la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la nation. Intérêts fondamentaux, intérêt général. Les intérêts fondamentaux s'insèrent certainement dans l'intérêt général, mais y a-t-il une hiérarchie ? Et on peut faire une analogie avec ce que les professeurs de droit ont dû développer après l'apparition des principes fondamentaux de la République, et combien de propos ont été tenus et écrits sur la distinction et les rapports entre les principes fondamentaux de la République et les principes généraux du droit. Nous avons ici une sorte de superposition, ou en tout cas de corrélation à établir entre les intérêts fondamentaux de la nation et l'intérêt général. D'autant plus que les intérêts fondamentaux de la nation seront quelquefois précisés, ceux de l'environnement, je viens de le dire, mais également les intérêts fondamentaux de la sauvegarde de l'indépendance nationale. Il y a là des éléments qui sont autant de précisions sur le contenu ou l'objet des intérêts fondamentaux, mais la formule générale laisse la place à d'autres éléments, comme l'intérêt général laisse la place à beaucoup d'éléments. Il arrive dans la jurisprudence de parler, il arrive le plus souvent, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, dans la jurisprudence de parler de l'intérêt général en tant que tel. Mais on voit apparaître des précisions sur l'intérêt général. Et on peut citer la jurisprudence sur l'intérêt national, l'intérêt local, ce qui correspond d'ailleurs à ce que vous direz tout à l'heure. Intérêt national, dans un arrêt Chéniaud, qui est très actuel, même s'il est de 1975, qui considère que la limitation de la vitesse sur les autoroutes correspond non seulement à la sécurité de la circulation, mais à la sécurité de l'approvisionnement de la France en produits pétroliers. C'est de 1975, mais c'est 2023 tout autant. Et cet intérêt, un intérêt national. On pourrait trouver encore d'autres exemples d'utilisation de cette formule. Et de l'intérêt national, on passe à l'intérêt national et régional. Je pense notamment à un arrêt Martin de 1992 sur la création de Disney, de Disneyland. Et il s'agissait, le contentieux portait sur le dispositif de création d'une agglomération nouvelle, et le Conseil d'État de dire que cette création correspond à un intérêt national et régional, de développement économique, de création d'emplois. Il y a donc un décalage de la formule. Ce n'est pas la formule d'intérêt général, c'est celle d'intérêt national et régional. Il est évident que l'intérêt national et régional est un élément de l'intérêt général. Mais le décalage apparaît lorsque l'adjectif n'est plus général ou national ou local, mais public. L'intérêt public, cela a été évoqué déjà, l'intérêt public est quelquefois considéré en tant que tel, et toute la jurisprudence sur le développement des services publics industriels et commerciaux locaux, c'est encore votre sujet, toute cette jurisprudence est marquée par la considération de l'intérêt public, dont l'appréciation n'est pas la même selon qu'on se situe en 1901, Casanova, en 1930, Chambre de commerce, et en 2006, Société SNC Armor. Ça, c'est une des évolutions de la considération de l'intérêt public. Intérêt public, intérêt du public. Alors, c'est une formule ancienne. Elle est dans l'arrêt des tramways de Marseille sur l'intérêt du public de faire évoluer la circulation des tramways dans l'agglomération. Mais pas tout. C'était un peu évoqué déjà, mais on n'a pas insisté, je crois. Et l'utilité publique. Formule évidemment importante dans le cadre de la déclaration d'utilité publique, importante dans le cadre de la reconnaissance d'utilité publique d'une association ou d'une fondation, et en oubliant, d'ailleurs pour l'expropriation, que l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme justifie ce qui va devenir l'expropriation, non pas pour un but d'utilité publique, mais dans un but de nécessité publique, ce qui montre bien l'évolution des considérations. Tout cela doit, je cherche l'expression, mais contraindre l'action publique, et dans tous les domaines, celui de la police en particulier. Mais cette ramification des expressions et cette diversité des objets de l'intérêt général, sans parler de l'évolution de la conception de l'intérêt général, ramène à une question essentielle, et je l'avoue, c'est celle qui m'a réveillé à 4 heures du matin pour jamais de. Mais de quoi allons-nous parler? Il faut revenir aux mots. Il faut revenir aux racines. Intérêt général. Intérêt de. Interesse du latin. Ce qui importe. Ce qui est important. Général, qui concerne le genre, non pas selon les débats actuels sur le genre. Non, le genre, ce qui est général. Ce qui se rapporte à un ensemble. L'ensemble. Et là, mon réveil a été complet quand j'ai retrouvé les deux mots, les origines. Mais voilà l'intérêt général. C'est ce qui est important pour un ensemble. Et à partir de là, on surmonte les difficultés, notamment s'agissant des rapports entre l'intérêt général et les intérêts particuliers. L'intérêt général, et vous l'avez dit, tout le monde est conscient, dépasse évidemment les intérêts particuliers. Mais je me demande, quand je prends l'autobus ou le métro, quel est l'intérêt qui est desservi? Moi, comme usager, comme client, c'est un intérêt particulier. Il m'importe particulièrement que le métro passe et qu'il soit à l'heure. Ce qui montre bien que l'intérêt particulier n'est pas incompatible avec l'intérêt général. Mais ce qui importe pour le transport, c'est l'ensemble des usagers, l'ensemble du territoire qui est desservi. Et je pense que cette considération, mais qui me paraît fondamentale. Ce qui est important pour l'ensemble peut s'appliquer, par exemple, à des questions relevant de la police. Et je pense en particulier à la question du paiement par certaines personnes des prestations dont ils bénéficient de la part de l'intervention de la police. S'agit-il de protéger la forêt des Landes? Il y a un arrêt d'Antin il y a quelques années à ce sujet. Les forestiers devaient payer. Recours, contestation, annulation. Pourquoi? Parce que la protection de la forêt des Landes, même si elle bénéficie aux propriétaires, est en réalité une action qui bénéficie, qui est importante pour l'ensemble. En revanche, on demande à l'occasion d'une manifestation particulière, parce qu'il y a du monde, à des forces de police de prêter leur présence. Mais c'est l'intérêt propre des organisateurs de la manifestation d'avoir une certaine sécurité par la présence de policiers ou de gendarmes. Je ne parle pas de manifestation, je parle simplement de mission de préserver, de montrer un peu qu'on va éviter des débordements. C'est l'intérêt de l'organisateur de la manifestation d'assurer une certaine sécurité. Il n'est pas choquant, compte tenu de ce que ce n'est pas l'ensemble qui est couvert ici, qu'on fasse payer. Il y a de la jurisprudence, il y a des dispositions législatives à ce sujet. Et je reprendrai un dernier cas du même genre. Les alpinistes qui montent en courant des risques extrêmes. C'est leur propre sensation, leur propre moi qui va s'épanouir avec une montée permettant d'affronter, de surmonter les risques extrêmes. Très bien, c'est votre affaire. Eh bien, on vient à votre secours payer. Et je crois, alors c'est très élémentaire, pardonnez-moi, mais pour moi, c'est ce qui va régler la question. L'essentiel dans l'action publique, c'est de considérer l'ensemble. Et ce qui est important pour l'ensemble, alors cela se rapporte à l'intérêt général. Voilà ce que je pouvais dire.
Merci, professeur. Vous avez, si ce n'est enseigné, interrogé.
Non, je vais affirmer.
Le directeur général de la police nationale, et donc il va répondre. Oh, je sais pas.
Si la place est assez inhabituelle pour un conseiller d'État, que dire d'un directeur général de la police nationale ? Et je crois que vous ne me rendez pas beaucoup service en me donnant la parole après le professeur Delvolvé. En effet, je me sens assez peu légitime à discuter la notion d'intérêt général devant une assemblée composée d'éminents juristes, sujet d'autant plus délicat que nous ne disposons donc pas d'une définition de l'intérêt général. Je me contenterai bien pourtant des termes de l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui place l'action de la police républicaine dans le cadre de l'intérêt général. Je cite « La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Cette force est donc instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. Même intuitivement, il est sans doute communément admis, par le plus grand nombre, que maintenir ou rétablir l'ordre public, assurer la sécurité des personnes, des biens et des institutions, relève par définition de l'intérêt général, même si cet intérêt général peut être, dans certains cas, comme ça a été rappelé, une addition d'intérêts particuliers, comme la protection des biens privés. Pour autant, le débat portant sur la mise en œuvre de l'action publique dans le domaine de la sécurité se développe dans l'opinion, comme devant les juridictions, et dépend, selon moi, essentiellement de deux critères. Le moment où la question est posée et la connaissance qu'aura le législateur ou le juge du sujet sur lequel il va devoir se prononcer pour en fixer les limites. Notons par exemple que dans le cas du terrorisme, domaine pour lequel le consensus est pourtant facilement réalisable, l'intérêt général n'a sans doute pas été apprécié de la même façon en 2010 et en 2013, avant et après les attentats commis par Mohamed Merah, tout comme en 2014 ou en 2016, après les terribles attentats que notre pays a connus. Je note d'ailleurs que le Conseil d'État a lui-même reconnu qu'il s'agissait, je cite, d'une notion dont le contenu est éminemment mouvant. Même en acceptant l'idée d'une certaine plasticité, comme vous l'avez rappelé, monsieur le vice-président, de l'intérêt général, il est difficile d'admettre qu'elle puisse provoquer des modifications permanentes de la loi ou de son application au gré de l'actualité, copieusement nourri par les questions de sécurité. Je reconnais qu'arbitrer l'intérêt général est un acte éminemment complexe, qui devrait avoir pour exigence une connaissance, sinon parfaite, au moins approfondie, du sujet traité et de ses enjeux. Où donc placer la limite haute, placer la limite basse de ce qui va être autorisé à celui ou celle en charge de l'action publique ? Pour ce qui relève du champ de la sécurité, je souhaite partager avec vous plusieurs points qui méritent aujourd'hui notre vigilance soutenue et une appréciation de l'intérêt général qui ne doit pas attendre que nous connaissions le pire pour le prendre en considération. La menace terroriste que je viens d'évoquer. La place croissante de la criminalité organisée dans nos sociétés. Les effets de la cybercriminalité. Les nouvelles formes violentes de contestation. Et enfin, la crise migratoire. Je suis intimement et particulièrement convaincu qu'il en va de notre pacte républicain, même si je n'apprécie pas forcément cette expression souvent galvaudée, et de la défense de nos libertés. Pour ce qui concerne le terrorisme et ce qui peut en constituer les prémices, la radicalisation. Même diffuse et peut-être moins visible aujourd'hui, la menace terroriste reste élevée dans notre pays, qui est le pays occidental le plus touché par le terrorisme djihadiste. Rappelons que depuis 2020, 9 attaques ont abouti sur le territoire, conduites par des individus agissant seuls, présentant pour la plupart d'entre eux des perturbations du comportement et inconnus des services de renseignement avant leur passage à l'acte, complexifiant singulièrement leur détection. Cette menace est permanente, avec des individus qui se radicalisent rapidement sur Internet et très souvent sans lien visible avec la mouvance islamiste radicale. Si cette menace endogène se maintient à un niveau élevé, la menace projetée se renforce avec une autonomisation et un dynamisme de certaines franchises djihadistes qui peuvent encore conduire à la projection d'activistes sur notre sol. Le cadre normatif dont nous disposons est adapté et ne doit pas donc être fragilisé. L'intérêt général est ici parfaitement identifié. La situation est sans doute plus difficile à évaluer sur le sujet de la radicalisation. Pour ce qui concerne la criminalité organisée et son expression la plus visible de trafic de stupéfiants, je crois que nous n'avons pas réellement idée du niveau de menace que représentent aujourd'hui les organisations criminelles en Europe, et en particulier dans notre pays, toujours plus puissantes, avec un recours accru à une violence sans limite, la corruption et l'infiltration de l'économie légale. La criminalité organisée a su très tôt tirer bénéfice de potentiels offerts par les nouvelles technologies, en utilisant les réseaux cryptés pour communiquer et les messageries instantanées, comme l'ont démontré les affaires Encrochat et SkyECC, conduites par Europol et qui révèlent l'emprise du crime sur nos sociétés. Au niveau mondial, les organisations criminelles disposent d'un système financier occulte pour traiter les transactions et les paiements à l'abri de tout mécanisme de surveillance et de détection de l'argent sale. Le trafic de stupéfiants est l'activité criminelle la plus développée, générant une violence parallèle très grave et une économie souterraine qui participe largement au délitement du lien social. La méconnaissance générale de ces phénomènes entraîne une prise en compte insuffisante de l'intérêt général dans notre pays. Pour ce qui concerne la menace liée à la cybercriminalité qui progresse elle aussi à la mesure de la dépendance de nos sociétés au numérique, elle touche l'ensemble des secteurs d'activité économique ou sociale, tant les particuliers que les entreprises et les institutions publiques. Parmi les tendances fortes de ces dernières années, les rançongiciels ont démontré leur capacité destructrice, aussi bien par le nombre de victimes que par la sensibilité de la cible, touchant particuliers, entreprises, établissements publics ou institutions. Nous n'en sommes qu'au balbutiement de ce fléau. Quant à l'ordre public, la séquence des gilets jaunes et des émeutes de l'été dernier doivent nous faire réfléchir sur nos capacités à répondre juridiquement et d'une manière opérationnelle à ces phénomènes de violence imprévisibles et désinhibés. Pour garantir la liberté d'expression et le droit de manifester, la police veille au bon déroulement des rassemblements et fait cesser les troubles à l'ordre public. Dans ce domaine, nous sommes aussi confrontés à de nouvelles formes de radicalisation, à gauche, à droite, ou indépendamment des courants idéologiques. Les mouvances contestataires d'ultra-gauche sont devenues plus actives et engagées dans une stratégie de transversalité des luttes, je les cite, qui se greffe sur toutes les causes dans une logique anti-système. Cette tendance se traduit par une volonté de faire dégénérer systématiquement les mobilisations de voies publiques avec un recours organisé et développé à la violence. Parallèlement, la lutte environnementaliste a pris aussi un tournant plus radical, n'hésitant pas à commettre des dégradations importantes. Par ailleurs, la désaffection pour les formes traditionnelles d'engagement et le développement de l'Internet et des réseaux sociaux ont conduit à ce que certaines actions échappent aux structures habituelles d'encadrement. L'activisme prend aujourd'hui le pas sur les modes traditionnels de contestation, agrégeant anti-vax, anti-paste et complotistes de tout ordre. Certains de ces nouveaux courants, sans structure hiérarchisée et définie, peuvent facilement basculer dans la violence. Je pense que nous avons dans ce domaine un sujet particulièrement difficile à traiter. L'ordre public relève incontestablement de l'intérêt général, qui questionne en permanence les libertés publiques. Enfin, rapidement sur l'immigration irrégulière. Vous le savez, la pression migratoire est en très forte hausse aux frontières de l'Union européenne. Tout indique que les flux migratoires vont poursuivre leur accélération avec une immigration clandestine qui nourrit des filières de criminalité organisée, posant des problèmes sécuritaires et capacitaires aux États. Comment conjuguer l'intérêt général et le respect de la dignité humaine? Face à ces défis majeurs, les policiers ont parfois le sentiment que l'interprétation des règles de droit ne prend pas suffisamment en compte l'intérêt général tel qu'ils le perçoivent, la protection des libertés individuelles, reléguant au second plan la préservation du bien public. Comme par exemple, directement en lien avec les questions que je viens d'évoquer, deux cas dans le domaine de la procédure pénale qui pourront vous paraître secondaires ou éloignés de vos préoccupations, mais qui sont révélateurs des difficultés auxquelles les policiers sont confrontés et qui interrogent le conflit intérêt général et liberté individuelle. Dans le cadre de la loi d'orientation et de programmation de la justice, le ministère de l'Intérieur avait porté une disposition permettant d'autoriser le recours à la téléconsultation médicale pour les examens médicaux des personnes placées en garde à vue. La désertification médicale croissante impacte aussi la gendarmerie et la police, qui ont de plus en plus de difficultés à obtenir le déplacement d'un médecin pour réaliser dans leurs locaux un examen de compatibilité de la garde à vue. Les enquêteurs sont donc contraints de se rendre dans les hôpitaux pour faire procéder à ces examens. Les heures consacrées au déplacement, à l'attente et aux formalités administratives rallongent de façon inutile le temps de la procédure et accroissent d'autant plus la durée de la garde à vue au détriment de la personne retenue. Cette mesure avait ainsi pour objet de permettre que l'examen de compatibilité de la garde à vue puisse être effectué en téléconsultation et contribuer à l'efficacité des investigations en permettant un gain de temps conséquent dans le déroulement de la procédure. Considérée comme attentatoire aux droits de la personne gardée à vue, la téléconsultation ne sera réservée qu'à la seule mesure de prolongation. Où se trouve l'intérêt général entre la téléconsultation, les temps d'attente aux urgences ou pas de médecin du tout? Autre exemple, face à des délinquants de plus en plus aguerris et qui déjouent désormais régulièrement le travail des services de police pour éviter la pose de caméras, micros ou balises, permettant de les localiser ou de procéder à des captations d'images et de sons, les services sont souvent contraints de renoncer par crainte d'attirer l'attention des malfaiteurs. Pour pallier ces difficultés, le ministère de l'Intérieur a porté, toujours dans le cadre de la loi de programmation de la justice, une disposition permettant d'offrir un cadre juridique pour permettre aux services spécialisés de police judiciaire de conduire leurs opérations sans risque de trahir leur présence, en ouvrant la possibilité d'activer à distance un appareil connecté afin de procéder à l'enregistrement des images et des propos ainsi que des données de localisation en matière de criminalité organisée. Or, dans une décision du 16 novembre 2023, le Conseil constitutionnel a censuré ce dispositif en jugeant que l'activation à distance était de nature à porter une atteinte particulièrement importante au respect de la vie privée. Où est l'intérêt général quand il s'agit de terrorisme ou de criminalité organisée? Par ailleurs, l'intérêt général est dorénavant soumis à la norme européenne, comme rappelé dans les propos introductifs, avec le risque confirmé de contraintes nouvelles qui pourrait fragiliser l'action publique. L'accès aux données de connexion et de localisation pour les besoins des enquêtes judiciaires illustre mon propos. Le recours aux réquisitions par les enquêteurs pour accéder aux données de trafic et de localisation de lignes téléphoniques a toujours constitué un acte d'investigation majeur et déterminant. Le cadre juridique applicable à la conservation et à l'accès aux données de trafic et de localisation a récemment été modifié à la suite de plusieurs décisions avec des conséquences sur la conduite de nombreuses enquêtes et la capacité des services à élucider. Pour la lutte contre la criminalité grave, l'autorité judiciaire peut demander un gel de données que détiennent les opérateurs pour les besoins du renseignement. Un accès aux données de trafic et de localisation pour les besoins d'une enquête judiciaire n'est donc plus possible pour le traitement de la délinquance de masse, qui impacte pourtant terriblement le quotidien de la population. Il est en outre conditionné à un contrôle préalable. Concrètement, certains parquets, développant finalement leur propre conception de l'intérêt général, ont exclu du champ des réquisitions relatives à l'accès aux données de trafic et de localisation tout le périmètre infractionnel des atteintes aux biens, excluant de fait les cambriolages et toute faculté de rapprochement judiciaire grâce à la téléphonie. D'autres exigent que les enquêteurs sollicitent leur autorisation dans le cadre d'enquêtes de flagrance, alors que les enquêteurs disposent de leur propre pouvoir de réquisition et sont en mesure de procéder eux-mêmes à un contrôle de proportionnalité préalable, conformément aux critères désormais requis. Ou ont exclu aussi toute possibilité d'accès aux données de connexion s'agissant des enquêtes diligentées en matière de disparition inquiétante ou de fugue. Ces instructions, variables d'un parquet à un autre, suscitent une incompréhension des services qui voient leur capacité d'agir fortement limitée, sans percevoir les gains en termes de protection des libertés individuelles qui faisaient déjà l'objet d'un contrôle rigoureux des magistrats. Où se trouve l'intérêt général ? Pour revenir sur un terrain plus administratif, je voudrais conclure mon intervention en évoquant un dernier exemple qui a lui aussi suscité une très grande incompréhension dans nos rangs, celui de l'emploi des drones dans un cadre administratif. Je vous ferai grâce d'évoquer le temps qu'il a fallu pour obtenir de pouvoir les faire décoller et des motifs qui ont pu être invoqués par certains pour expliquer la menace que cela représentait pour nos libertés. Alors que l'usage des drones s'est très largement répandu dans la société, et que les médias comme les particuliers et les entreprises en font un usage intensif sans restriction apparente. Les contraintes imposées aux forces de sécurité intérieure sont jugées excessives, nous privant d'un moyen d'aide à la décision efficace, pour le coup, au service de l'intérêt général. Pour autant, à la suite de l'entrée en vigueur de l'arrêté du 19 avril 2023 et à la reprise des vols de drones dans le cadre de la police administrative, plusieurs décisions ont annulé des arrêtés préfectoraux précisant les conditions de captation, d'enregistrement et de retransmission des images, ainsi que les conditions d'emploi des drones dans un sens qui limite grandement son intérêt opérationnel. Ainsi, à l'occasion des manifestations du 1er mai, un tribunal administratif a restreint l'autorisation des drones, je cite, « en raison d'une atteinte grave et manifestement illégale », fin de citation, « aux libertés liées à une trop grande latitude quant aux horaires et aux périmètres de survol autorisés ». Un autre tribunal administratif, saisi en référé, a annulé dans le cadre de la surveillance des frontières un arrêté du préfet autorisant l'usage des drones pour surveiller des points de passage en raison, je cite, du périmètre trop étendu de surveillance, mais également d'un usage non justifié des drones au regard des autres possibilités de surveillance moins intrusives, comprenez la surveillance physique par des personnels de police. Un autre tribunal a annulé, dans le cadre d'une opération générale de lutte contre les rodéos urbains, un arrêté autorisant l'utilisation des drones au motif que le recours aux drones présentait là aussi un caractère trop intrusif au regard des autres possibilités de surveillance, qui étaient la présence de caméras de vidéoprotection et la raison d'un périmètre trop étendu. Tout en évoquant la position des responsables de l'action publique en matière de sécurité, je garde évidemment présent à l'esprit qu'un équilibre est nécessaire entre les impératifs de l'intérêt général selon le point de vue de l'État et la nécessaire protection des libertés individuelles. Mais prenons garde à ne pas sous-estimer la détermination et l'ambition des adversaires de notre système démocratique.
Merci, Monsieur le Directeur général, pour ce plaidoyer pour l'intérêt général. Et cette interrogation du curseur où l'on place la défense de l'un et la prise en compte d'autres intérêts, notamment des libertés publiques, tension permanente que vous évoquiez et qui doit, bien entendu, et je crois que on ne peut que tenir compte de ce que vous venez de dire, tenir compte de l'évolution des menaces et du fait que l'intérêt général doit être, si j'ose dire, appréhendé dans toute son intensité. Je vais maintenant laisser la parole à Madame Muriel Fabre, qui est la vice-présidente de l'Europol de Strasbourg, la métropole de Strasbourg, pour nous dire en quoi les collectivités locales sont aussi soutien de l'intérêt général, au fond, et dans quelle mesure leur action le poursuit, cet intérêt général, le cas échéant, si j'ai bien compris, avec petite tension avec un intérêt général national.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Effectivement, participer aujourd'hui à cette table ronde d'intérêt général et action publique pour les élus locaux pouvait sembler naturel et légitime, puisqu'effectivement, ce sont deux notions qui nous animent et qui nous transcendent. Pour autant, comme mon voisin directeur général, la légitimité pour vous faire soit une dissertation extrêmement juridique sur la notion des deux, la confrontation sur les collectivités me semblait un petit peu complexe, et il me semblait plus intéressant d'aborder peut-être une vision pragmatique, c'est-à-dire de voir aujourd'hui comment finalement ces deux notions nous animent au quotidien dans nos fonctions d'élus, puisque effectivement aujourd'hui, la vision pour les élus locaux de l'intérêt général, c'est bien la finalité, l'objectif final de leur action quotidienne. Deux exemples pour vous démontrer tout cela. Déjà, en 2011, lors du 94e congrès des maires, le thème, c'était le maire, l'intérêt général et le citoyen. Alors, n'y voyons pas l'intérêt général comme un lien entre le maire et les citoyens, quoique, mais effectivement, comment, à travers cette notion d'intérêt général, le maire peut exercer ses politiques publiques pour le citoyen. Et déjà là, il y avait quelques tensions, évidemment, sur notre action publique. Simplement, vous rappelez le discours de fin de M. Jacques Pélissard, à l'époque président de l'Association des maires de France, qui disait, je cite, « Les échanges ont été marqués particulièrement par une certaine gravité et ont confirmé le grand sens des responsabilités des élus locaux de notre pays, pour qui l'intérêt général, thème central de ce congrès, est le moteur de leur engagement au quotidien. » Aujourd'hui, 2023, 105e congrès des maires, notre thème, commune attaquée, république menacée. Et pour autant, cet intérêt général est toujours au cœur de notre action. J'en ai pour preuve la résolution que nous avons prise et cette introduction que je vais vous lire. C'est bien la passion que nous avons chacun et chacune en partage pour l'intérêt général et l'action communale. La passion, avec un sentiment d'affect finalement dans ce que nous faisons au quotidien. Et je pense qu'il est indispensable aujourd'hui de rappeler le rôle central, mais vraiment central, des collectivités pour l'action publique de manière générale. L'action publique nationale, bien évidemment, puisque nous sommes aussi là pour agir au nom de l'État, mais une action publique, bien évidemment, locale. Nous sommes moteurs de l'économie. 70% de l'investissement public est réalisé aujourd'hui par les collectivités. Nous sommes un amortisseur social. Nous sommes là pour répondre aux besoins des personnes les plus vulnérables sur notre territoire. Et nous mettons en place des services publics de proximité. Pour autant, aujourd'hui, les enjeux sont nombreux, liés finalement à toutes ces crises successives, mais finalement sans que l'une ne vienne balayer l'autre. J'entends bien évidemment la crise sanitaire qui nous a mis au premier front, en première ligne, la crise économique, bien évidemment, la crise sociale et bien sûr les questions aujourd'hui de transition écologique dont on ne peut nier l'importance et l'évidence. Et tout cela, bien évidemment, en parallèle d'émergence de droits fondamentaux dont on estime aujourd'hui que les collectivités finalement seraient aussi les comptables. Je pense au logement, je pense aussi à la santé. Ça a été extrêmement prégnant lors de la crise sanitaire puisque la mise en place de centres de vaccination ou encore de tests ou encore de gestion de distribution de masques, c'était encore les collectivités. Et puis finalement aussi, l'émergence de biens communs, la protection de ces biens communs, communs parce qu'appartenant à tous. Je pense notamment aujourd'hui à l'enjeu de l'eau qui sera aussi dans les mains des collectivités, bien évidemment. Et tout cela, bien évidemment, à côté de politiques publiques locales, je vous l'ai dit, en lien direct avec les besoins de nos concitoyens, mais également agir au nom de l'État. Et comment ne pas rappeler aujourd'hui la question sécuritaire sur notre territoire, bien évidemment, où là encore, les collectivités prennent toute leur place. Pourtant, aujourd'hui, notre action locale est entravée, elle est mise à mal, et nous ne pouvons pas aujourd'hui répondre aux défis sans avoir des réponses efficaces à ces entraves. Le premier point que je voulais développer avec vous, c'était notre fragilité de démocratie liée, bien évidemment, à cette crise civique, à cette crise démocratique, à ce délitement du lien social, sur lequel une tentative, je dis bien une tentative de réponse, a été notamment apportée sur les questions de transparence, mais aujourd'hui, l'on voit qu'elle ne suffit pas, parce qu'il nécessite vraiment aujourd'hui d'avoir un rééquilibrage efficace des moyens d'action entre l'État et les collectivités, parce que nous sommes tous deux garants aujourd'hui de l'intérêt général. Sur le premier point, sur la crise civique qui nous déstabilise finalement par rapport à notre rapport aux citoyens, c'est aujourd'hui le sentiment, en tout cas pour l'Association des maires de France, que cette crise devient structurelle. Elle est liée à notre sens et pour partie, bien évidemment, à ce sentiment, à cette notion, à cette inaction publique ou en tout cas cette impuissance publique. Pourquoi ? Parce que l'on considère que plus on éloigne la décision du citoyen, plus le citoyen se sent délaissé et démuni. Et donc, on l'a souligné tout à l'heure, vous l'avez dit, pour nous, la manifestation paroxystique aujourd'hui, c'est bien cet état de violence. Alors, ce sentiment d'impuissance publique, comment nous le vivons ? Eh bien, de différentes manières. C'est tout d'abord cette inflation normative. En 20 ans, plus de 73 articles législatifs en plus. Il faut y répondre à ces articles législatifs, il faut les comprendre, il faut les interpréter, il faut les mettre en œuvre de manière opérationnelle après sur notre territoire. C'est extrêmement difficile quand vous n'avez ni appui ni ingénierie juridique pour ce faire. C'est d'ailleurs un harcèlement textuel que certains de mes collègues ont dénoncé devant le Sénat lors de son rapport. Et nous avons mis en place à l'Association des maires de France d'ailleurs un comité législatif pour justement permettre une simplification de cette bureaucratie réglementaire et législative parce qu'aujourd'hui, on a besoin de souffle législatif. Et puis c'est aussi bien évidemment les injonctions descendantes, ce sentiment de n'être parfois malheureusement que les supplétifs de l'État qui ordonnent aux élus locaux de faire, j'en dirai quelques mots tout à l'heure, et surtout aussi ce délai de plus en plus long pour toute procédure. Aujourd'hui, vous faites des permis de construire, non pas en 2 mois, mais en 6 mois, et encore, si vous n'avez que le respect du périmètre ABF, je ne prends pas en compte d'autres éléments programmatiques dans ce cadre-là, et le citoyen ne comprend plus pourquoi ces réponses ne peuvent pas être apportées de manière immédiate. Et puis deux territoires peut-être sur lesquels il faut aujourd'hui peut-être axer. La ruralité et les Outre-mer. Aujourd'hui, près de 60% des habitants territoires ruraux considèrent qu'il y a une dégradation de leur accès aux services publics. Vous en avez parlé, déserts médicaux, logements, emploi. Ce sont des territoires qui se sentent délaissés. La question d'Outre-mer est bien évidemment spécifique. On a tendance à l'oublier sur notre territoire métropole, mais leur particularisme fait aussi qu'ils ont aujourd'hui des difficultés. Je pense à la question du coût de la vie, la cherté et la suppression potentielle de l'octroi de mer, la question du foncier, parce que quand vous êtes sur un effet insulaire comme les Antilles, il est extrêmement difficile aujourd'hui de pouvoir continuer à produire du logement alors qu'il y a une demande forte en logement social, par exemple. Et puis vous avez bien évidemment aussi toute cette question sécuritaire beaucoup plus prégnante sur nos territoires d'outre-mer que, bien évidemment, sur notre territoire métropolitain. Tout cela renchérit finalement par une crise de la citoyenneté. Vous avez parlé tout à l'heure, et je reprends ce terme, effectivement, de ce pacte républicain qui finalement ne lie plus aujourd'hui le citoyen avec ses élus locaux ou ne lie plus le citoyen entre eux. Ça se manifeste, on le voit, à chaque élection, par un taux d'abstention qui est de plus en plus élevé, par un complet désintéressement aujourd'hui de la chose politique, par un détournement finalement du citoyen de ce qu'est aujourd'hui la politique publique. On constate, et c'est souvent ce que disent, et ça ressort d'ailleurs du Congrès des maires, les élus locaux considèrent aujourd'hui que leurs citoyens ou concitoyens sont souvent plus consommateurs qu'acteurs. Pourtant, on a mis en place des outils de démocratie participative, mais qui ne fonctionne pas forcément toujours de manière efficace par manque de citoyens présents au sein de ces instances, et non pas parce qu'on ne souhaite pas les mettre en place. Et puis surtout, aujourd'hui, on est vraiment sur des citoyens qui veulent une immédiateté de réponse et qui se retrouvent aussi finalement dans un comportement de laisser-aller avec une gestion pour les élus locaux d'une montée des incivilités assez prégnante. Ça, c'est du quotidien, la gestion des incivilités. 7 maires sur 10 s'estiment aujourd'hui victimes d'incivilités sur sa commune. C'est énorme. Ça montre vraiment ce délitement du lien social entre les citoyens et sur lequel nous devons d'apporter des réponses. Parce qu'entre le citoyen qui ne respecte pas et celui qui souhaite que l'on respecte, je peux vous assurer qu'aujourd'hui, les relations sont extrêmement tendues. Et effectivement, on le voit de plus en plus, nous avons vraiment aujourd'hui une montée de la violence qui interroge. Il y a vraiment une remise en cause, non seulement de l'autorité, mais quand je parle de l'autorité, bien évidemment, je parle de l'autorité publique, et notamment, justement, d'être dépositaire aussi de cette question de l'intérêt général. Vous l'avez rappelé, et je reprends vos mots, cette radicalisation politique avec cette espèce de légitimation, finalement, de la violence aujourd'hui dans notre société, qui pose question, bien évidemment, cette montée des violences vis-à-vis des élus. 39% des élus sont victimes aujourd'hui d'injures. 39%. Ça fait pratiquement partie, en fait, du quotidien d'un élu. On a des faits aussi de plus en plus violents. Je pense que l'exemple le plus marquant cette année a été, bien évidemment, les émeutes au mois de juin, où non seulement les élus ont été cibles, mais également nos symboles républicains. 243 écoles, c'est bien la première fois. Les hôtels de ville, les commissariats, les postes de gendarmerie, plus de 1100 bâtiments ont été attaqués pendant le mois de juin, qui a fait preuve d'un sentiment de violence exacerbée sur lequel on ne pouvait plus, entre guillemets, contrôler. Et ces agressions ne diminuent pas. 32% entre 2021 et 2022, plus 15% en 2023, et elles s'étendent aujourd'hui non seulement aux élus, mais à leurs conjoints et leurs enfants. Donc il s'agit d'y répondre, bien évidemment. Et je pense que c'est toute la force aujourd'hui de l'efficacité d'une action publique qui montrera effectivement qu'elle répond aux attentes de l'intérêt général. Une réponse qui avait été apportée pour cette crise de la citoyenneté, finalement cette crise de défiance liée à quelques affaires politico-judiciaires, c'est la question de la déontologie. Il me semblait important peut-être de faire un focus, avant d'entamer ma troisième partie, sur ce point-là. Puisque, évidemment, lorsque ces affaires, on pense à Cahuzac, mais il y en a eu d'autres, a finalement instauré un climat de défiance entre les élus et les citoyens, il y a eu aussi une prise de conscience, finalement, des élus dans ce cadre-là. Et ils estimaient que leur intégrité et leur exemplarité constituaient finalement des clauses essentielles de ce pacte de confiance avec les concitoyens. Il y a eu, bien sûr, un premier effet avec les lois de 2013 sur les déclarations à la haute autorité, mais qui n'était pas suffisante, puisque finalement, on ne démontrait pas de manière efficace sur le terrain ce pacte de confiance. Parce que je peux vous dire que le rendre compte aujourd'hui est une nécessité pour un élu. Il est obligé au quotidien d'expliquer, d'expliciter les actions qu'il mène au quotidien. Et puis, il y a eu en 2015, effectivement, ce souci de moralisation supplémentaire de la vie publique, avec notamment deux items intéressants. La charte de l'élu local, c'est un document non contraignant, simplement lu en conseil municipal. Certains maires l'affichent même au sein de leur conseil municipal, mais qui permet de rappeler, au moment où vous êtes installé de manière très solennelle, puisque le conseil municipal d'installation est quand même un temps fort pour un élu local, de pouvoir rappeler effectivement les principes déontologiques qui doivent l'animer. Et puis, la question aujourd'hui de ce référent déontologue qui pose encore question, mais il est vrai que je m'aperçois aujourd'hui que mes collègues maires sont plus en recherche finalement d'un appui, d'un accompagnement sur cette question déontologique, de comprendre le mécanisme, parce que cela entraîne aussi des risques juridiques, notamment sur notre responsabilité pénale. Un exemple, sur le délit de prise illégale d'intérêt, ou conflit d'intérêt, nous restons bien évidemment exposés à d'importants risques, parce qu'aujourd'hui, il nous est parfois difficile, compte tenu effectivement de notre représentation de différentes institutions, je pense à des associations, je pense à des entreprises publiques locales, à des offices de tourisme, de forcément avoir en tête la cartographie de ce, pardonnez-moi l'expression, cumul des mandats. Et je peux vous assurer que La situation est parfois ubuesque dans certaines assemblées délibérantes pour savoir au moment où vous allez voter sur un point précis si vous devez ou pas vous déporter. Donc il y a toute une liste pour pouvoir savoir si effectivement vous êtes ou pas intéressé. Et nous voulions effectivement que cette nuance puisse être apportée parce qu'il s'agit aujourd'hui non pas de sanctionner mais de prévenir en fait le risque de conflit d'intérêts. Je pense que c'est bien là où la loi veut se positionner. Elle veut permettre effectivement que ce risque-là ne soit pas mis en place. Donc on a souhaité une clarification du régime et il y a eu donc une récente modification. Je reprends mes notes parce que je ne le connais toujours pas par cœur. L'article 432-12 du Code pénal lié en fait à l'évolution législative de la loi sur la confiance du 22 décembre 2021. L'objectif en fait c'était vraiment d'apporter cette nuance, sauf que dans ce cadre-là et dans cette rédaction juridique, le terme d'intérêt reste tel quel. Pas de possibilité finalement d'en faire une interprétation précise par le juge et nous attendions quelques éléments jurisprudentiels pour ce faire. Nous avions eu quelques éléments par rapport à la foire aux questions de la DGCL, une doctrine aussi qui avait été développée par la haute autorité et puis là, pardonnez-moi l'expression, patatras, première décision de la Cour de cassation en date du 5 avril 2023 qui confirme, comme d'ailleurs beaucoup de spécialistes le pressentaient, que la nouvelle définition de la prise illégale d'intérêt apportée par la loi pour la confiance n'emporte pas de bouleversement dans l'appréciation du juge pénal sur le sujet. Pour résumer, il n'y a toujours pas d'effet protecteur des élus, et je pense qu'en matière déontologique, on a également besoin de ces éléments protecteurs. Pourquoi ? Parce que la démarche déontologique, en fait, elle doit impérativement sécuriser l'action publique que mène l'élu local. Ce n'est pas une sécurisation uniquement du comportement de l'élu, mais bien la sécurité de l'action publique qu'il porte au quotidien. Et il faut pouvoir lui permettre de prévenir toutes les atteintes à la probité pour ce faire, pour permettre en fait cette transparence qui est souhaitée, bien évidemment, par tous. Et toutes ces difficultés, finalement, nous emmènent aujourd'hui à cette question de crise de l'engagement et de crise de vocation des élus. Je pense que tout un chacun en a entendu parler. 1300 maires démissionnaires, ils étaient un peu moins de 1000 à la dernière mandature. La précédente, ils étaient 500. On renoue encore des maires en 2026. C'est la question que l'on se pose. Mais c'est aussi le souhait aujourd'hui, justement, de pouvoir avoir une vraie ambition pour notre démocratie. Parce que nous sommes persuadés, nous tous, au sein de l'Association des maires de France, que les collectivités, si elles sont en première ligne, c'est bien parce qu'elles sont nécessaires et indispensables. Et il nous faut aujourd'hui, pour finalement revitaliser cette démocratie, revitaliser cette action publique, générale et locale, une véritable décentralisation. La recentralisation que nous voyons aujourd'hui est extrêmement dangereuse. Cette recentralisation qui se passe par la suppression finalement de nos moyens financiers, suppression notamment de nos recettes avec une fluctuation de notre dotation globale de fonctionnement qui n'est pas suffisante pour répondre aujourd'hui à la hausse des coûts de fonctionnement par l'inflation, une réforme fiscale qui nous a coupé toute dynamique. Et il nous semble indispensable aujourd'hui de pouvoir avoir enfin une véritable autonomie financière et fiscale pour ce faire. Et puis les différentes réformes qui sont engagées aussi aujourd'hui, notamment en matière de transition écologique, sont essentiellement, voire uniquement centralisatrices. Je pense bien évidemment aux ZAN, zones. J'ai oublié le terme, mais c'est pas grave. Voilà, c'est à force de parler avec des zones de zéro artificialisation nette. Merci. Le dispositif aussi de rénovation écologique qui a été confié pour les écoles aux DASEN et non pas aux maires, alors que les bâtiments sont bien de gestion des maires. La loi sur l'industrie verte aussi, qui finalement continue à grignoter encore un peu plus notre pouvoir d'urbanisme. Il est question aujourd'hui aussi de décentralisation via une différenciation, voire une dérogation. Alors évidemment, la différenciation, quand elle peut permettre d'avoir quelques responsabilités locales de manière précise, je pense notamment par exemple à la spécificité des territoires outre-mer, elle rentre dans une demande, mais il ne faut pas, sauf erreur de ma part, que la loi soit uniquement faite d'exceptions. Sinon, ça devient illisible et extrêmement compliqué à mettre en œuvre de manière opérationnelle. Et sur la question de la dérogation, une fois de plus, nous permettre de déroger, ce n'est pas nous permettre de décider. Et nous avons besoin aujourd'hui, clairement, de pouvoir agir, de pouvoir mettre en œuvre nos politiques publiques, parce que, animées, bien évidemment, de cet intérêt général. Alors nous proposons, bien évidemment, et nous proposons un nouvel acte de décentralisation. Il me semblait intéressant, peut-être, de vous en faire part aujourd'hui. Nous souhaitons une performance, bien évidemment, de l'action publique. Et pour cela, au nom de l'intérêt général, nous pensons que cela passe par de la subsidiarité. Aujourd'hui, l'échelon le plus proche du citoyen doit être celui qui doit agir. Cela implique donc un pouvoir décisionnel des maires sur tout ce qui affecte leur commune, services hospitaliers, bien évidemment, classes et fermetures de classes, le logement, je vous en ai parlé tout à l'heure, et bien évidemment la question de la gestion de l'eau. Et puis les maires doivent bien évidemment aussi disposer d'un pouvoir réglementaire, de droit commun, pour mettre en œuvre des grandes lois nationales qui, elles, se cantonneraient à de grands objectifs. Nous souhaitons aussi une intercommunalité choisie et non pas forcée. Les intercommunalités fonctionnent quand les maires décident de mutualiser et de se mettre ensemble. Et bien évidemment, nous souhaitons avoir les moyens financiers pour ce faire, avec une autonomie financière et donc une dotation globale de financement indexée sur l'inflation. Nous souhaitons un vrai impôt local pour les collectivités et nous souhaitons surtout une visibilité sur nos budgets avec la mise en place d'une loi de programmation sur les collectivités territoriales. Cette décentralisation, bien évidemment, passe avec une déconcentration parce que nous l'avons toujours dit, nous avons besoin d'un État fort aux côtés de collectivités fortes. Pour conclure, simplement, reprendre la conclusion qui émane de la voix de l'ensemble des maires, la voix par la résolution de notre 105e congrès. En crise profonde, la France a besoin de ses communes, ces lieux de démocratie qui respirent et qui inspirent. Les communes du XXe siècle, modernes, résistantes et plus nécessaires que jamais dans notre société fragmentée et notre démocratie fragilisée. Face à une France du repli et de la crainte, les communes, les élus et leurs équipes portent l'espérance d'une France ouverte, créative, active, solidaire. Nous attendons de l'État confiance et liberté. Ce serait un changement majeur et tellement nécessaire. Je vous remercie.
On comprend donc de ce propos que l'intérêt général, si on veut qu'il soit accepté par les intérêts particuliers, notamment les intérêts individuels, passe à la fois par un intérêt général appliqué plus localement et avec une décision locale plus forte, une capacité de décision locale plus forte, et puis que ça interroge la façon dont les intérêts particuliers s'expriment aujourd'hui, avec une évolution des droits individuels qui s'exacerbent, non plus sous la forme d'expression de droits, mais sous la forme, vous le disiez, d'une expression parfois violente, et qui s'oppose à l'intérêt général, mais même le conteste, et au fond ne le comprend plus. Madame Stévenin, est-ce que, d'une façon un peu provocatrice, l'intérêt des consommateurs, c'est l'intérêt général ? La présidente de l'UFC Que Choisir va nous dire ce qu'elle en pense.
Bien, merci. Et merci de m'avoir donné la parole dans ce magnifique lieu et sur cette magnifique question de l'intérêt général. Et est-ce que l'intérêt général et l'intérêt des consommateurs, c'est la même chose ? J'aimerais bien, parce que ça nous faciliterait la tâche, parfois. Mais la réponse est un petit peu plus complexe, puisque l'UFC Que Choisir défend un intérêt catégoriel, celui des consommateurs. Mais c'est un intérêt catégoriel qui est finalement assez large et qui, parfois, va évoluer en intérêt collectif. Donc, on est habilité à agir au nom de l'intérêt collectif des consommateurs, qui n'est évidemment pas la somme des intérêts individuels des consommateurs. Mais je pense qu'il n'y a pas besoin de revenir sur ce point-là. Et cet intérêt collectif, on s'aperçoit qu'il va parfois évoluer en intérêt général, parce qu'il peut relever de l'intérêt général. À titre anecdotique, par exemple, nombreuses de nos associations locales sont reconnues organismes d'intérêt général par les services fiscaux et vont bénéficier de la déductibilité des dons qu'elles vont percevoir, par exemple. Mais on a aussi, au sein de l'UFC Que Choisir, créé un fonds de dotation qui va être destiné à financer des actions d'intérêt général, et on n'a pas défini plus précisément l'objet. Ce sont des actions d'intérêt général qui doivent servir la cause des consommateurs. Et on le voit bien, on est sur un champ d'application extrêmement large, sur notre fonds de dotation, par exemple. L'intérêt collectif, l'intérêt général, on va les retrouver parce que, par chance, l'intérêt général, c'est une notion non définie. Et donc, c'est une notion qui s'interprète à la lumière des besoins évolutifs et donc à la lumière des besoins du consommateur à un instant T, ce qui nous permet d'avoir des regards différenciés selon l'époque à laquelle on va lire la jurisprudence. Donc, c'est quand même une notion qui est bien pratique et qui est bien utile, y compris pour les consommateurs. Nous, dans l'action des consommateurs, on voit l'intérêt général de deux façons. D'abord, l'intérêt général peut être moteur de l'action publique. Et donc, on voit bien là que ça peut venir servir les intérêts du consommateur. Et j'y reviendrai. Et puis, c'est une partie qui a déjà été un petit peu abordée, l'intérêt général va être le gendarme de l'action publique. C'est-à-dire que l'intérêt général va être un élément de contrôle par rapport à d'autres intérêts qui vont être en jeu. Donc voilà le fil de la pensée que je vais développer. Concernant l'intérêt général comme moteur de l'action publique, concernant le consommateur, ben, on va le retrouver, par exemple, cet intérêt général qui va venir porter la cause des consommateurs, si on regarde la notion de prix raisonnable. Si j'étais joueuse, je vous dirais juste prix, histoire de vous mettre une petite jingle en tête. Et donc, en matière notamment de fourniture d'énergie. Et alors là, c'est vrai que la construction de l'intérêt général par rapport à l'intérêt collectif s'est faite en plusieurs étapes. Et la première étape, elle va pouvoir peut-être vous paraître paradoxale, puisque c'est une décision qui n'a pas statué en faveur de la position du FC que choisir. Mais la première décision, c'est celle du Conseil d'État du 19 juillet 2017 sur le TRV gaz. Alors, le TRV, c'est le tarif réglementé de vente du gaz. C'est un tarif qui est fixé par le gouvernement. Et donc, le gouvernement avait maintenu le TRV gaz, ce qui faisait l'objet d'une contestation dans le Conseil d'État. Et le Conseil d'État, à l'époque, en 2017, retient que le maintien du TRV gaz ne répond pas pleinement à l'objectif d'intérêt économique général prévu par la législation européenne. Alors, ça peut paraître paradoxal de citer cette première décision, mais c'est parce que c'est pour nous un des premiers pas de l'intérêt général par rapport aux consommateurs. Parce que même si, au regard des faits objectifs à l'époque, et 2017, c'est une époque qui est un peu loin derrière, et pour ceux qui ne s'en souviennent pas, c'est une époque où le gaz était pas cher. Et donc, ce qui justifiait concrètement cette décision, c'est qu'il y avait des offres alternatives économiques plus favorables pour le consommateur. Mais nous, ce que l'on retient, c'est que l'intérêt du consommateur d'avoir accès à des prix raisonnables se trouve érigé comme intérêt général, puisqu'on vient nous dire en creux que, bah, puisqu'il a accès à d'autres offres, celle qui est permise dans le cadre du TRV gaz n'est pas justifiée. Donc on voit bien, pour nous, c'est vraiment la première pierre. Et ce qui est intéressant aussi dans cette décision, même si je ne vais pas revenir sur ce point précis par la suite, c'est aussi que dans l'intérêt général du consommateur, pour la première fois, le Conseil d'État, en tirant cette décision sur le gaz, parle en passant de l'électricité et dit bien que c'est une décision qui va s'appliquer au gaz et pas à l'électricité, qui est un bien de première nécessité. Et là, bon, on ne va pas revenir à la notion de bien commun, à la notion d'intérêt général, mais on voit bien qu'une des composantes aussi de l'intérêt général qui va venir servir à cause du consommateur, ça va être tout ce qui va rentrer dans le bien de première nécessité. Mais je m'arrête là sur le bien de première nécessité parce qu'en réalité, ce qui m'intéresse, ça a été plutôt le prix raisonnable. Parce que dans la construction du prix raisonnable et donc de l'intérêt général, finalement, des consommateurs à avoir accès à un marché, à un prix qui soit pour lui juste, on a une deuxième décision qui est extrêmement récente, qui est celle du Conseil d'État du 3 février 2023. Et donc là, on n'est plus en matière de gaz, mais on est en matière d'électricité. Pour faire rapidement, pour vous planter le contexte, EDF est obligé de vendre un certain volume d'électricité, qui s'appelle l'AREN, à un prix qui est fixé à 42 euros du mégawattheure, qui est un prix extrêmement avantageux pour les autres fournisseurs d'accès à l'électricité. Et le gouvernement, quand la crise inflationniste des prix du gaz et de l'électricité est arrivée, a choisi de relever le plafond de l'AREN et donc a demandé à EDF, concrètement, on demande à EDF, enfin ça va avoir pour conséquence de demander à EDF de vendre encore un peu plus d'électricité à un prix qui effectivement ne l'arrange pas, puisque 42 euros, ça se négociait à l'époque au double, voire au triple, voire encore plus. Et l'idée, pourquoi le gouvernement a pris cette décision, c'est parce que ça permettait in fine, associé au bouclier tarifaire qui avait été adopté, de maintenir des prix raisonnables pour le consommateur, parce que les fournisseurs alternatifs allaient avoir accès à de l'électricité un peu moins chère que celle qui se vendait sur les marchés, qui était en train de complètement s'emballer. La décision est attaquée par EDF, qui n'est pas très contente de devoir vendre effectivement son électricité pas très chère, et elle est également attaquée par les syndicats des salariés d'EDF, qui se trouvent par ailleurs être actionnaires et qui voient bien s'envoler une petite partie de leurs bénéfices. L'UFC Que Choisir est venu en soutien de l'État, du gouvernement, sur cette position, et le Conseil d'État a bien validé le relèvement du plafond de l'AREN en considérant que c'était justifié par un motif impérieux d'intérêt général. Mais ce motif impérieux d'intérêt général, c'est lequel ? Mais en réalité, c'est celui des consommateurs. C'est celui pour les particuliers, et aussi un peu pour les petites entreprises, mais moi je ne vais porter que la cause des consommateurs, mais c'est juste l'intérêt pour un particulier d'avoir accès à de l'électricité, qui par ailleurs est qualifiée de bien de première nécessité, à un prix correct et à ne pas se retrouver étranglé par ses factures d'électricité. Donc on le voit bien, là, la notion d'intérêt général, elle est complètement comprise par rapport à l'intérêt collectif des consommateurs. Et ça vient vraiment être deux champs qui vont complètement se rejoindre et aller dans le même sens. Dernière petite pierre à l'édifice de la fusion entre l'intérêt collectif des consommateurs et l'intérêt général, mais dernier élément qui nous permet de dire que les deux se rapprochent, sont les débats qu'il y a actuellement concernant la PPL sur l'action de groupe. On doit, il y a une révision de la procédure de l'action de groupe qui est en cours. Et dans ce cadre, le Conseil d'État a rendu, non pas une décision, mais un avis sur cette proposition de loi, action de groupe. Et alors, c'est très intéressant parce que dans cette action de groupe, se développe la possibilité, non plus pour une association de consommateurs, mais pour le ministère public, se développe la possibilité pour le ministère public d'être à l'origine d'une action de groupe, et uniquement quand ça va être une action en cessation du manquement. Et là, c'est vraiment le ministère public qui devient demandeur de sa propre initiative, alors que jusqu'à maintenant, les actions de groupe se faisaient à l'initiative des associations de consommateurs. Le Conseil d'État, dans son avis du 9 février 2023, sur cette possibilité pour le ministère public d'exercer une action en cessation du manquement, considère que c'est une disposition qui répond à un motif d'intérêt général. Et là, j'ai envie de dire, parfait, parce que le motif d'intérêt général, c'est lequel ? C'est celui de défendre les consommateurs. Et donc, on le voit, l'intérêt collectif des consommateurs se retrouve vraiment dans la notion d'intérêt général. Bon, je ne suis pas non plus complètement naïve. Je sais qu'il y a aussi, derrière cette notion d'intérêt général mise dans et cette action de groupe, la possibilité pour le ministère public d'assainir le marché par le biais de son action, et là aussi, c'est là où on retrouve l'intérêt général. Mais avant tout, l'action de groupe, c'est l'action des consommateurs, et donc on voit bien que intérêt collectif des consommateurs et intérêt général se regroupent complètement. Là où l'intérêt des consommateurs, l'intérêt collectif des consommateurs peut également venir être servi par l'intérêt général, C'est lorsque l'intérêt des consommateurs se trouve confronté à d'autres intérêts et qu'il va falloir trancher. Et comme le rappelait Monsieur le Professeur, l'intérêt général, c'est ce qui importe pour un ensemble. Or, il se trouve que l'ensemble des consommateurs, c'est un ensemble qui est suffisamment grand pour pouvoir emporter la conviction de se dire que c'est l'intérêt général qui doit être servi. Et donc là, ce sont les cas dans lesquels l'intérêt général va venir comme gendarme, soit de l'action publique, soit en appréciation d'un contrôle de proportionnalité entre des droits. La première décision à laquelle je pense, ça va être celle concernant les chartes sur les distances minimales d'épandage de pesticides. Pour faire court, parce que je crois que le temps est compté, il y a des distances minimales qui doivent être respectées ou pas, selon les chartes locales, quand vous souhaitez, en tant qu'agriculteur, faire de l'épandage de pesticides. Ces chartes ont été contestées par beaucoup d'associations, dont des associations de consommateurs, et dont l'UFC Que Choisir, puisque nous prônons une consommation responsable, donc a priori sans trop de pesticides. Et le Conseil d'État a exigé de revoir les distances minimales d'épandage pour protéger la santé publique des riverains. Et dans sa décision, le Conseil d'État a bien souligné l'autorité administrative doit concilier les exigences de l'intérêt général et la protection du droit de propriété. Donc là, on voit bien qu'il y a quand même un ensemble qui a l'air un peu plus important qu'un autre ensemble et que l'intérêt général, c'est d'aller en faveur de l'ensemble le plus large. Et il se trouve qu'en l'occurrence, c'était celui du consommateur qui a le droit de ne pas se voir polluer avec ses pesticides. Et puis, un autre sujet qui n'a pas encore fait l'objet d'une décision du Conseil d'État, mais je ne doute pas qu'il y aura une décision et nous y serons attentifs, c'est par exemple l'action que l'UFC Que Choisir vient de faire devant le Conseil d'État concernant l'accès aux soins. Alors, on a entendu parler deux fois de fracture sanitaire. Et c'est effectivement ce qui a guidé l'UFC Que Choisir dans son recours, c'est de dire qu'on vient porter l'intérêt général des patients, l'intérêt général des consommateurs et des usagers du système de santé. Intérêt général qui vient, on en est bien conscient, en contrariété avec d'autres intérêts, et notamment la liberté d'entreprendre. Mais il y a déjà des décisions par le passé du Conseil d'État et surtout du Conseil constitutionnel pour dire que l'intérêt général susceptible de justifier des limitations à d'autres libertés, et notamment la liberté d'entreprendre. Et en matière de santé, je pense par exemple à tout ce qui va être encadrement de la publicité sur les cigarettes, l'alcool, ce genre de produits, où on voit bien qu'il y a une très très large atteinte à la liberté d'entreprendre au motif que la santé, c'est un petit peu d'intérêt général et qui va être supérieur à celle de la liberté d'entreprendre. Donc voilà, donc là, évidemment, pas encore de décision sur ce point. Donc ce que je disais, l'intérêt collectif des consommateurs évolue vraiment vers la notion plus large d'intérêt général, mais c'est parce qu'il n'y a parfois pas d'ensemble plus grand, finalement, que l'ensemble des consommateurs. Et donc c'est ce qui permet de voir à quel point intérêt collectif des consommateurs et intérêt général sont deux notions qui sont liées. Le seul petit regret, et je suis désolée, je vais conclure sur un regret, donc c'est tout ça en matière de reconnaissance des droits, c'est quelque chose qui fonctionne assez bien. Par contre, du point de vue du consommateur, l'effectivité du droit, on la perd un peu dans le cadre de l'action privée. Et j'entends par là, si on regarde par exemple une procédure qui a été faite par l'UFC Que Choisir contre Facebook, 2018, 50 procédures, l'UFC Que Choisir a obtenu du tribunal judiciaire de Paris la condamnation de Facebook pour 430 clauses abusives. Donc là, c'était au nom de l'intérêt collectif des consommateurs. Donc, au regard du nombre d'usagers de ce réseau social, on est sur des dizaines de milliers de consommateurs. Sauf que Facebook a été condamné à 30 000 euros de dommages et intérêts pour avoir porté atteinte à cet intérêt collectif des consommateurs. Ça représente très exactement, parce que nous on aime bien faire des calculs, 17 secondes de son chiffre d'affaires. Et donc on voit bien l'intérêt général des consommateurs, on peut le défendre, mais parfois pour obtenir la réparation concrète, là on a un petit peu plus de difficultés.
Merci beaucoup pour cette intervention qui nous montre que l'intérêt général n'est pas désincarné, mais qu'il peut avoir directement affaire à un intérêt collectif que nous percevons directement. Je crois qu'il y a encore quelques minutes. Est-ce que donc nous avons la possibilité d'avoir quelques questions de la salle pour un petit débat après ces interventions? Oui.
La mairie de Paris, et je travaille pour la police municipale, et j'enseigne le droit également. J'ai une question à poser. À votre avis, où est-ce que se fabrique aujourd'hui l'intérêt général? Bien sûr, au Conseil d'État, mais normalement, ça devrait être au Parlement, mais il semble un peu occupé parfois à d'autres choses. On sait qu'au gouvernement aussi, c'est parfois un peu compliqué, et le Conseil économique, social et environnemental, on l'entend assez peu. Donc finalement, quel est le lieu où on peut être sûr où est fixé l'intérêt général, hormis bien sûr dans la jurisprudence administrative? Je vous remercie.
Dernier aspect de votre question, quel est le lieu où se définit l'intérêt général? Mais nulle part et partout. Il n'y a pas une institution qui est chargée de définir l'intérêt général. L'intérêt général s'apprécie selon les circonstances, selon les objets. Alors, il arrive que le juge administratif constitutionnel prenne en considération des motifs quelquefois impérieux d'intérêt général, mais il n'y a pas un organe qui est chargé de la définition de l'intérêt général. Ce n'est pas possible. C'est une conception générale.
Anne-Marie Le Pourriette, professeure de droit public. J'aurais voulu poser la question. On constate effectivement un certain affaiblissement de l'intérêt général. Pierre Delvolvé a eu une lumière nocturne. C'est ce qui importe à l'ensemble. Oui, on semblait l'avoir oublié. C'est ce qui importe à l'ensemble. J'ai entendu le directeur de la police nationale faire part de des incompréhensions qu'on constate devant certaines décisions. Est-ce que on peut dater au carbone 14 le moment charnière où la notion d'intérêt général, la verticalité qui caractérise le droit public? Moi, dans mon biberon de publiciste, je n'ai appris qu'une chose, c'est le primat de l'intérêt général sur les intérêts catégoriels et individuels. Mais c'était ma leçon. Je buvais ça comme du petit lait. Hein. C'était. Et bien sûr, le juge ne pouvait pas adresser d'injonction à l'administration. C'était impensable. Il devait protéger les deniers publics, bien entendu. Il ne pouvait pas se substituer à l'administration pour faire un contrôle d'opportunité. Mais tout ça, c'était les principes du droit administratif appris dans nos manuels. On voit bien, je vois bien, 50 ans après être entré sur les bancs d'une fac de droit, que les choses ont considérablement changé. Et donc, je cherche le moment de bascule, où quand même il y a eu un effritement de cette verticalité, et j'ai le sentiment, quand je regarde les dates, 70 Ville Nouvelle Est, 70 Internationale Handelsgesellschaft, 71, la décision du Conseil, que c'est, tout ça est un peu post-68 et post-gaullien. Bon, il y a quand même une... Donc, si je cherche à dater au carbone 14, le moment où l'intérêt général, la verticalité, le mélèze de la Ve République commence à être un peu rongé à la base, j'ai le sentiment que ça se situe précisément dans ces eaux-là. Et que quelque chose s'est quand même passé, et que derrière ce que nous constatons en droit positif, il y a tout simplement un changement peut-être plus profond, philosophique et idéologique.
Derrière vous, une deuxième question, parce qu'on fera peut-être des réponses communes.
Voilà. Merci beaucoup. Carole Hernandez-Zakine, docteur en droit et experte en matière de droit de l'environnement appliqué à l'agriculture. Je voudrais revenir sur cette idée de hiérarchie possible entre des intérêts généraux, ce que l'administration appelle aujourd'hui l'articulation, pour essayer d'y voir clair entre ces différentes couches d'intérêts généraux. Je me demandais s'il y avait une hiérarchie entre l'intérêt général national et l'intérêt général local. Et si oui, comment est-ce qu'il s'exprime ? On a parlé de subsidiarité. Est-ce que ça supposera de définir au niveau national un cadre commun ? Parce que moi, je m'interroge sur l'existence aujourd'hui de droits locaux d'intérêt général, et je m'interroge sur l'égalité, finalement, entre tous, avec tous ces intérêts généraux qui sont tellement différents. Et puis, j'avais une autre question. Vous avez dit, madame, qu'il y aurait des biens communs comme l'eau qui seraient à la charge des communes. Alors, je me disais, puisque les biens communs ne seraient pas le bien commun, si je comprends bien, mais comment des communes pourraient s'approprier des ressources en eau qualifiées de patrimoine commun par le Code de l'environnement ? Et je vous pose la question parce que vous vous doutez bien que ces discussions sont très, très vives au niveau local ou sur les niveaux locaux en ce moment. Merci.
Alors, sur ces deux questions, il y a... La deuxième, je crois, s'adresse à vous, Madame Fabre, et sur la première, demanderai aux autres membres de la table ronde si.
Alors, pour répondre à votre question je me suis peut-être mal exprimée sur la notion de protection du bien commun qui revient aujourd'hui aux collectivités. L'idée, ce n'est pas que les collectivités s'approprient ce bien commun qu'est l'eau, mais que ça revient finalement dans leurs escarcelles par leurs compétences. Alors, par la compétence de l'Interco, puisque c'est aujourd'hui comme ça que c'est dévolu par la loi, même si on a beaucoup de communes qui souhaitent pouvoir reprendre la main sur cette gestion de l'eau, mais avec cette notion justement de bien commun qui n'existait pas avant, en fait. Donc, on est sur finalement, aujourd'hui, sur cette question de se dire, est-ce que c'est... comme c'est un bien qui appartient à tous, mais que chacun doit finalement en prendre sa part sur un territoire donné, et on sait que bien sûr la gestion de l'eau sur des bassins, on peut être parfois sur des zones totalement transfrontalières, c'est comment à un moment donné on voit justement pouvoir confronter nos intérêts locaux de distribution, d'approvisionnement, de non-pollution, dans une gestion qui est finalement nationale. Et je rebondis sur votre question, votre première question, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, ce que nous sollicitons, ce n'est pas en fait d'être dans l'application en fait de lois très contraignantes, très restrictives et très précises, mais d'être bien dans un cadre national qui nous permette, nous, sur le territoire, en proximité, de pouvoir adapter en fait de manière opérationnelle, parce qu'on le sait, aujourd'hui, on a des départements qui sont fortement touchés par la sécheresse, qui mettent en place aussi des innovations, notamment avec le traitement de l'eau de mer, etc., et d'autres départements qui le sont moins, et sur lesquels les innovations faites sur ces départements pourraient, à un moment donné, servir d'expérience aussi dans ce cadre-là. C'est ce que nous voulons. Aujourd'hui, on pense qu'une application normative trop contraignante et trop ferme et trop précise, finalement, nous empêche, nous, après, de mettre en œuvre des éléments qui soient finalement plus pertinents et plus adaptés.
Sur la bascule de l'intérêt général, son affaiblissement, c'est le moment où le malaise a commencé à se tordre. Je ne sais pas s'il y a un moment en réalité. On disait que, au fond, cette notion était par nature évolutive.
Je ne dirais pas par nature, par culture. elle est théorique. Tout dépend des conceptions générales de la société et de la composition de la société, de l'évolution des rapports sociaux, des rapports économiques. Il n'y a pas un intérêt général, je crois, fixé une fois pour toutes. Alors, vous avez raison de souligner que les arrêts de 1971, Ville Nouvelle, Est, mais il y en a d'autres, enfin, Ville Nouvelle Est, puisque c'est votre pierre de touche, si j'ai bien compris. C'est une évolution de l'appréciation par le juge de l'utilité publique. Il approfondit son appréciation de l'utilité publique. Il ne suffit pas de dire qu'un projet correspond à un intérêt général. Il s'agit d'apprécier si concrètement les avantages et les inconvénients sont suffisants pour répondre à l'intérêt général. Donc, en réalité, ce que vous contestez, me semble-t-il, c'est le degré de contrôle du juge. Il faut relire les conclusions du commissaire du gouvernement Brébant qui dit tout ce que nous avons fait jusqu'à présent, c'était une sorte de contrôle abstrait, et il faut peut-être regarder les choses de plus près. Contrôle concret, on n'employait pas encore cette distinction à l'époque, mais c'est bien de ça. Alors, vous avez l'air de considérer que c'est un changement dans une rupture, une bascule dans l'appréciation de l'intérêt général. C'est un changement dans l'exercice du contrôle du juge, dans le degré du contrôle du juge. Mais est-ce que c'est un changement dans la conception même de l'intérêt général? Je crois que la société, entre le XIXe siècle, où notre droit a commencé à se constituer, et aujourd'hui, a profondément changé. Et les notions juridiques, il n'y a pas un droit qui est abstrait, il y a un droit qui est fondé sur un certain nombre de principes. Et les principes ont évolué. Ils ont évolué, ne serait-ce que par le droit constitutionnel, ma chère collègue, que vous enseignez. Et donc, les dispositions du préambule de la Constitution, fallait-il les prendre comme une belle déclaration sans portée, ou fallait-il considérer qu'elles ont une portée juridique? Il y a un choix, mais qui est un choix d'ordre juridique et d'ordre politique, peut-être. Mais enfin, on ne peut pas considérer que les proclamations constitutionnelles sont d'ordre purement esthétique, et elles ont nécessairement un effet dans l'organisation et dans le fonctionnement de la société, oui, et des institutions. Donc, qui est une évolution, et il y a certainement une évolution, et dans l'appréciation de l'intérêt général, dans la consistance de ce qu'on met dans l'intérêt général, mais il n'y a pas de disparition de l'intérêt général, ça, non. Dire que l'intérêt général a disparu, c'est pas possible, ma chère collègue.
Je crois qu'on ne peut que conclure sur ces mots.